Voyons, Kevin, il y a assez de bons shows au Québec, là. Moi, je sors pas de ça. Durant toute la période estivale, l'équipe de Schiste se promène partout sur les routes du Québec à la recherche des meilleurs spectacles. Tadoussac, Québec, Carleton-sur-Mer, Baie-Saint-Paul, en veux-tu du bon spectacle? En veux.
Pour ne rien manquer, visitez le schiste.ca et synthonisez le 94.3 tout le temps.
Cet été, Schiste 94.3 s'installe confortablement dans les gradins du Stade Canac, comme vous autres, fans des capitales de Québec! Tous les matchs à domicile seront diffusés sur le web au schiste.ca et tous les matchs à domicile du jeudi au samedi inclusivement seront diffusés sur nos ondes. N'est-ce pas aussi merveilleux qu'un grand chelem en fin de 9e manche, ça? Je pense que oui! Schiste 94.3 FM, radio diffuseur officiel des capitales de Québec.
Bon mardi soir tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de Schiste 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et je suis avec vous pour parler de sport jusqu'à 22h ce soir. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison de Boisvert Radio. Après ça, on va prendre une pause pour l'été et puis on va revenir là à l'automne prochain, là au mois d'août, au mois de septembre. En tout cas, bref, au début de la saison de Schiste. Donc, je vais vous le rappeler... À plusieurs reprises probablement là, pendant l'émission, notamment là, à la fin, que je vais prendre le temps là, de remercier tout le monde, mes invités et tout, etc., etc. Mais bref, là, sachez que mardi prochain, là, ben, vous aurez votre mardi de libre parce que Boisvert Radio ne sera pas de retour. Ce soir, on a comme collaborateur Lucas Fizet-Doucet qui est de retour cette semaine après une semaine d'absence. Lucas, bonsoir, comment vas-tu?
Bonsoir Charles, ça va super bien. Écoute, merci pour l'invitation pour une deuxième fois à ton émission. Et non la moindre ce soir, Charles, ouais. La dernière de la saison. Vas-tu t'ennuyer le mardi soir maintenant?
Ben là, c'est sûr que je vais m'ennuyer. Puis tu sais, comme je disais, je disais ça dans ma tête en m'en venant, là, mais on garde le meilleur pour la fin. Fait que c'est pour ça que je voulais t'avoir comme collaborateur ce soir. T'sais, je sais que tu connais ton hockey, puis de l'actualité hockey, il s'en passe énormément dans les derniers jours.
Grosse
donc,
semaine.
Donc ça va être vraiment le fun là, de jaser de ça. On va parler des remparts, on va parler de Cole Caulfield, on va parler de la finale de la Coupe Stanley. On va parler également de Ivan Provorov qui a été échangé aujourd'hui.
Ouais.
Vraiment là, on a un programme chargé. Parce que là, en plus de ça, on va parler du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Dans le fond, c'est notre dernière émission avant le repêchage de la LNH. Donc, on va recevoir Pascal Lapointe du site Tout sur le hockey là, qui va venir nous parler du repêchage, de ses meilleurs espoirs, de ce que le Canadien va faire, de ses cartes cachées. Parce que Pascal, c'est quelqu'un qui regarde énormément de vidéos d'espoir, prend beaucoup de temps là, pour analyser les joueurs, les jeunes espoirs, et qui va publier là, sa liste dans les deux prochaines semaines, là, sa liste finale de repêchage. Et c'est une liste que on peut vraiment se baser dessus parce qu'il y a beaucoup de travail qui va avoir été fait derrière ça. Donc, on se gâte un peu avec un avant-goût de sa liste finale, t'es un peu ce soir. On va parler là, de la QV 2023 en général, de ce que le Canadien va faire, des meilleurs espoirs et, comme je disais, là, des cartes cachées. Parce que quand tu regardes des vidéos de jeunes espoirs, ben, t'en trouves beaucoup des cartes cachées. Il y a des joueurs que tu remarques des choses que peut-être des recruteurs ou d'autres observateurs ne remarquent pas. Donc, ça va être très intéressant de jaser de ça avec Pascal Lapointe qui va nous rejoindre là, en direct de Jonquière au téléphone.
Et... Moi, j'ai hâte de cuisiner M. Lapointe, parce que de plus en plus, dans les derniers jours, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été sorties, à savoir quel va être le premier choix au repêchage du Canadien. On dirait que j'ai une petite idée, mais j'aimerais ça entendre M. Lapointe là-dessus, un expert en la matière. Il y en a qui parlent d'un joueur en particulier, un autre. On n'est pas certain, mais c'est ça. On sait le premier choix, assurément. Mais après ça, ça va être très, très intéressant. J'ai hâte de parler.
Exactement. Et aussi, dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir un spécialiste de basketball en studio que vous connaissez déjà à Chiffre 94.3, Charles Leblanc, qui est là dans l'émission Conduite Antisportive, mais l'édition jeune, parce qu'il y a aussi l'édition un peu plus vieux, avec Gabriel, Félix-Antoine et Alex. Mais Charles fait partie de la mouture plus jeune de Conduite Antisportive et c'est un grand fan de basketball. Et là, en plus d'être en finale dans la Ligue nationale de hockey et d'avoir eu la Coupe Memorial qui s'est complétée dimanche dernier, on est également en finale dans le basketball, dans la NBA. Le Heat de Miami là, qui affronte les Nuggets de Denver. Donc une finale là, qui est pour l'instant très serrée. Et ben Charles va venir avec nous là, jaser un peu de Ligue nationale de hockey, mais on va parler là, de son sujet fétiche, de la NBA, dans la dernière partie de l'émission. Lucas, ça commence.
Donc, nos remparts champions.
Ben oui, on n'a pas le choix de parler de ça au début, là, et je vois ton magnifique chandail des remparts.
Pour l'occasion, j'avais pas le choix ce soir. On parle des remparts qui sont champions. Ça donne super bien à l'émission. Ils ont été champions dimanche soir, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Et parce que j'ai beaucoup de respect envers James, j'ai fait un James de moi-même. Alors, je porte fièrement les couleurs des remparts. Extrêmement content, surpris, content pour la ville de Québec. Je pense que les partisans en avaient besoin.
Ben honnêtement, c'est vraiment le fun. Justement, les partisans des remparts attendaient une Coupe du Président depuis 1976, attendaient une Coupe Memorial depuis 2006. Et là, on l'a, notre édition championne. Et là, je vois plusieurs débats, plusieurs observateurs qui disent « Mais est-ce la meilleure équipe de l'histoire de la LHJMQ? » Honnêtement, tu me poses cette question-là en saison régulière, je suis sûr que la réponse, c'est non. Parce que oui, ils ont gagné, mais... ils ont échappé des matchs qui devaient pas échapper, ont eu certains moments de faiblesse. Mais là, tu regardes la performance de cette équipe-là à la Coupe Memorial, tu regardes la performance de cette équipe-là en séries éliminatoires qui les a menés là, vers le trophée Gilles Courteau. Honnêtement, wow. Là.
On a parlé il y a deux
semaines.
C'est
certainement dans la discussion là, des meilleures équipes de l'histoire de la LCH au complet.
Je pense que oui. Je pense qu'il peut pas avoir ce point des balayages en série puis une domination totale à la Coupe Memorial. On a parlé il y a deux semaines, Charles, de à quel point les Thunderbirds avaient une solide équipe avec des premiers choix au repêchage.
Ouais.
Mais pour honnêtement, après la ronde préliminaire de la Coupe Memorial, je pouvais prédire que les remparts allaient remporter aisément cette finale. Malgré le fait que, oui, contre les Thunderbirds, ça s'est terminé 3-1, dont un but dans le filet désert. C'est une game qui était très serrée, mais les remparts étaient tout simplement dominants. Là. Ils ont continué sur leur lancée des séries éliminatoires.
Mais ce qui était encore plus impressionnant de ma part, que j'ai trouvé, c'est la finale. La finale, 5-0 contre les Thunderbirds. Au début, ça commençait un peu comme le match de la ronde préliminaire.
Ouais.
Deux équipes qui jouent très physique également contre, dans le sens que c'était un match très serré. Les remparts ont été un peu plus opportunistes. C'est pas que Thomas Milic a été mauvais. Au début, c'est vraiment que les deux gardiens s'échangeaient arrêt après arrêt. Les deux équipes s'échangeaient chance de marquer après chance de marquer. Et après ça, c'est vraiment en troisième période, tout a déboulé. Les remparts ont assimilé leur supériorité. Et ils sont vraiment devenus l'équipe parfaite sur la patinoire.
Moi, j'ai senti qu'il y avait ce qu'on appelle dans le jargon un out-coaching. J'ai senti que là où les remparts ont pris le dessus, c'est quand Patrick Roy a décidé que c'était le temps d'ouvrir la machine. Je pense qu'il a su motiver ses troupes. Et je sais pas si tu as entendu, il y a un reportage où Théo Rochette et Nathan Gauchy ont parlé du speech que Patrick Roy avait livré avant le match.
Ouais.
Ils ont dit que c'était pas son genre de parler très fort dans le vestiaire avant les matchs, mais que cette fois-là, il y avait des frissons et les larmes aux yeux parce que Patrick était revenu sur le passé, le présent, le futur, à quel point les joueurs, ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Il y en a beaucoup que c'est leur dernière année. Je pense qu'à un moment donné, les joueurs, il y avait cette chimie-là. On a senti que les remparts sont partis sur un envolé, puis après ça, il n'y avait plus rien qui les arrêtait.
Mais c'est ça, c'est très impressionnant parce qu'au moment où les remparts devaient protéger l'avance et empêcher les Thunderbirds de marquer des buts, les remparts se sont mis à marquer encore plus de buts.
Oui.
Fait que c'est comme si, genre, cette équipe-là carbure à la pression. Et après ça, ben, les Thunderbirds ont sombré dans l'indiscipline, se sont totalement effacés. Et ça a donné un pointage de 5-0 quand même pour la finale entre les deux meilleures équipes du hockey junior canadien. Donc vraiment, là, chapeau aux Remparts de Québec. Absolument. Là.
Chapeau. Ça aurait pu être un match un petit peu plus serré, mais on a vu que quand les valves ont été ouvertes après le premier but, la pression est descendue. Les Remparts sont partis tout seuls, puis ont filé jusqu'à la victoire.
Exactement. Et moi, une autre chose qui m'impressionne beaucoup, c'est à quel point là, Québec était tout réuni derrière les Remparts. On l'a vu dimanche au cours de la finale. Toutes les cages au sport étaient pleines. Devant le centre Vidéotron, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, qui se gelaient le cul. Pour encourager les Remparts.
Il faisait
vraiment froid dimanche soir. Là. Et là, t'avais plein de monde dehors avec leur chandail des Remparts, avec leur manteau, avec leur couverte, avec leur chaise de camping, qui regardaient le match devant le centre Vidéotron et il y avait de l'ambiance à souhait.
Puis moi, ce que j'ai trouvé impressionnant aussi, c'est qu'on l'a vu pendant les séries, l'amphithéâtre était pratiquement toujours presque plein ou plein dans la
finale. À partir de la troisième ronde contre Gatineau, ça a été sold out match après match.
Et puis, pendant les célébrations, moi, ce que je trouvais impressionnant, c'est à quel point c'était pour tous les âges, c'était quelque chose de très familial. On a vu des jeunes enfants comme des plus vieux, des gens qui suivent les Remparts depuis 20, 30, 40 années. Et des familles qui ont essayé de perpétuer les traditions à leurs enfants. Puis, il y avait des familles qui disaient à la télévision qu'ils avaient trouvé ça le fun que les joueurs restent à la fin de la célébration pour prendre des photos avec les jeunes enfants.
Mais oui.
Puis ils ont donné beaucoup de leur temps, même s'ils revenaient de Kamloops, puis ils étaient arrivés aux petites heures du matin, là, ils ont pris le temps quand même. Fait que ça, c'est un beau geste.
Ben exactement. T'es moi, puis Jean-Philippe, hier, on a assisté aux célébrations de la Coupe Memorial à la place Jean Béliveau, justement. Et c'est incroyable la générosité des joueurs. On a parlé un peu à William Rousseau et il y avait une... tous les joueurs étaient partis. Là. Tous les joueurs avaient fait le tour. William Rousseau est un peu plus en demande. T'sais. Il y avait encore une grande file devant lui. Et là, je me souviens, il y a une agente de sécurité qui lui dit « Ah, Will, veux-tu y aller? Tout le monde est parti. » Puis là, il a vu encore la file des gens qui attendaient pour soit prendre une photo, donner un câlin, avoir un autographe ou juste jaser avec. Et il a dit « Ah non, ben je vais rester, je vais poursuivre. » Donc c'est vraiment impressionnant. Oui, les Remparts sont champions, mais les joueurs restent humbles, restent humains, ils restent accessibles dans tout ce succès-là. Donc moi, ça m'impressionne de voir que ces joueurs juniors-là
les partisans ont
les partisans dans leur cœur profondément.
Oui, ouais, c'était un échange. Les partisans ont beaucoup donné d'encouragement pendant les séries aux Remparts, puis maintenant les Remparts leur redonnent l'appareil. C'est très beau pour ça.
Exactement. Et là, t'es rapidement, là, c'est notre dernière émission avant l'an prochain. Et c'est probablement les dernières secondes dans lesquelles on parle des Remparts de Québec dans cette année-là. Et bon, l'an prochain, quand on va se retrouver, les Remparts vont présenter un visage extrêmement différent. D'abord, est-ce que l'entraîneur-chef sera de retour? Est-ce que le directeur général sera de retour? Est-ce que le président va être de retour? On va voir. Également, plusieurs joueurs vont quitter. Évidemment, les 3-20 ans. Mais sinon, Justin Robida, Nathan Gaucher, Zachary Bolduc, Evan Nas, tous ces joueurs-là vont progresser au niveau professionnel. Demain, une période de transaction d'à peu près 2 heures va s'ouvrir en vue du repêchage de samedi qui aura lieu à Sherbrooke. Et il va y avoir quelques joueurs des Remparts qui vont quitter. Notamment, là, il a été annoncé que c'est pas annoncé officiellement par la LHMQ, par les Remparts, mais des journalistes réputés comme Michael Lalancette ou Kevin Dubé parlent déjà de William Rousseau qui a été échangé aux Huskies de Rouyn-Noranda. Oui. Jérémy Langlois également qui va le suivre. Ça, c'est deux joueurs qui pourraient évidemment signer un contrat pro et partir. Jérémy Langlois avec les Coyotes de l'Arizona, William Rousseau avec peu importe quelle équipe va avoir la chance de mettre la main sur lui dans les prochaines semaines, prochains jours. Mais c'est quand même deux gros morceaux qui assurément vont quitter les Remparts l'an prochain. Mais c'est ça le cycle du hockey junior. Là. Tu pousses très fort une année. Les Remparts, cette année, avaient 3-20 ans, puis je pense 15 joueurs de 19 ans dans leur alignement. Donc ça, c'est énormément.
Ben,
c'est énorme. Là.
C'est comme ça dans la LHJMQ, c'est comme ça exact. Dans le hockey aussi. C'est le cycle de reconstruction dont, à Montréal, on n'a jamais voulu vraiment dire. Hein. On a parlé de reset, mais...
Ouais, mais le hockey junior, c'est complètement différent de ce côté-là. Là.
Mais c'est ça, on peut quand même dire qu'après une année de domination de la part des Remparts, il va y avoir un certain retour du balancier. Donc, on va repartir avec des jeunes, puis on va rebâtir. Et que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de l'administration, il va y avoir des changements assurément.
Ouais.
Reste à savoir si effectivement Patrick Roy reviendra et toute son équipe et quel visage va présenter les Remparts l'année prochaine à voir.
Ouais. Puis tu sais, déjà, on peut déjà dire que les Mooseheads d'Halifax, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Tigres de Victoriaville là, s'enlignent pour être trois équipes qui vont viser haut l'an prochain dans la LHMQ. Même si les Remparts ne seront peut-être pas dans les... Ben, probablement pas en mesure de défendre leur titre. Ça va être très intéressant à suivre. Donc, on s'en va en musique parce que Pascal Lapointe va être avec nous là, dans les prochaines minutes. Donc, on s'en va écouter Philippe B et la chanson Les orages là-bas. Le temps de connecter Pascal Lapointe au téléphone. Et on est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chips 94.3. Dans quelques instants, restez avec nous.
Les nuages là-bas n'annoncent rien de bon. Ramasse ton barda, on rentre à la maison. Mais nous restons ici. Il fait beau et la vie est si courte. On n'a pas le loisir de la vivre en attendant le pire. L'hirondelle là-bas est de mauvais augure. Elle vole trop bas, c'est la fin, j'en suis sûr. Mais non, ne t'en fais pas. Les tempêtes, ça va et ça vient. Le beau temps revient sans que le ciel ne tombe sur la terre. Attache tes cheveux, le vent se lève et tu n'y vois rien. Quand ils sont dans tes yeux, reste pas loin, tout va bien, mais je sens que s'approche déjà les orages de la mort. Le temps change et le vent souffle du mauvais bord. Et une ombre s'étend sur le monde qui dort. Où je sais que le ciel est fâché et qu'il faut rester fort. Oui, mais c'est encore mieux de se laisser plier. Attache tes cheveux, le vent se lève et tu n'y vois rien. Quand ils sont dans tes yeux, reste pas loin, prends ma main. Oui, je sens que s'approche déjà les orages là-bas.
Philippe B, les orages là-bas, c'est ce que vous y aviez dans les oreilles là, à Chiz 94.3. Le temps pour nous là, de connecter notre invité, Pascal Lapointe, au téléphone. Pascal, comme j'ai dit là, au début de l'émission, est un chroniqueur pour le site là, Tout sur le hockey. Il est également un expert pour les repêchages. Il passe beaucoup d'heures là, à épier des jeunes espoirs en vue là, du prochain repêchage pour avoir là, la meilleure opinion de ces derniers. Donc, on rejoint Pascal au téléphone à l'instant. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va très, très bien. On est là avec toi ce soir pour parler du repêchage de la LNH qui va se dérouler à Nashville le 28 juin prochain, si je ne me trompe pas.
Exact.
C'est quoi ton avis général sur cette QV 2023 en comparaison, par exemple, à celle de 2022 ou 2021?
Je dirais que 2022 et 2021 avaient une très bonne profondeur, mais le top, dans le fond, le top 10 du repêchage cette année est vraiment à un autre niveau que ce qu'on a eu dans les deux dernières années. Juste à regarder le top 4 ou le top 5, c'est vraiment, vraiment élite. Ça a le potentiel de changer complètement une organisation de la Nationale de hockey. Après le top 12, top 10, top 12, il y a une baisse en, au niveau du talent et au niveau de la profondeur, mais quand même, dans les deux premières rondes, on est capable d'aller chercher des joueurs d'impact potentiels.
Tu viens de parler du top 5, Monsieur Lapointe. disons que l'identité des cinq premiers choix est pratiquement, je ne veux pas dire coulée dans le béton, mais est-ce que selon toi, on parle ici de Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carson, Matvei Michkov et Will Smith, est-ce qu'on pourrait avoir droit à des surprises qui pourraient s'insérer dans ce top 5-là?
Le cas Michkov est vraiment nébuleux. On ne sait pas ce que les équipes vont... s'ils vont tenter de le repêcher ou non dans le top 5. Je veux pas, quand ta job est en jeu, est-ce que tu vas risquer un haut choix comme ça avec un joueur de la Russie? Je sais pas s'il va s'en venir au bout de son contrat de 3 ans, avec son contexte, la mort de son père et tout. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Mais oui, ce serait les 5 joueurs logiques à prendre part dans le top 5. Si Michkov glisse au-delà du choix 5, t'as des gars comme Zach Benson, t'as David Rennbacher, qui est un défenseur droitier, qui n'a pas nécessairement un talent élite, mais qui est sûr de jouer dans le talent de hockey. Je pense que ce serait les deux choix logiques là, pour peut-être se faire un chemin dans le top 5, mais dans ma tête à moi, comme les noms que tu as dit, ce serait vraiment les noms logiques pour sortir.
Justement, on parle de Michkov. Qu'est-ce qui te rassure chez lui et qu'est-ce qui t'inquiète de chez lui? Parce que c'est vraiment le joueur qui est le plus polarisant là, de ce top 5-là. Là. Ouais. On en parle beaucoup. Puis justement, le Canadien a le choix numéro 5.
Ben, ce qui me rassure de lui, c'est que j'évalue que le deuxième meilleur potentiel offensif du repêchage là, avant Adam Fantilli est juste en dessous de Bédard à ce niveau-là. C'est la vision offensive, son tir, sa polyvalence, le fait qu'il est vraiment trompeur dans ses intentions, c'est-à-dire qu'il va vous feinter une passe alors qu'il va faire un tir, mais il va aussi feinter la fin du tir pour refaire une passe à l'autre bord. Il est vraiment, vraiment spectaculaire en attaque. Ce qui est inquiétant, c'est plus ce qui est de l'autre bord. Au niveau de la défensive, c'est pas son rôle. On lui demandera jamais. Mais maintenant, il va falloir que ça lui tente un petit peu plus. Et il veut pas, il a le gabarit un peu. Il est quand même un gars en forme, athlétique et tout, mais le jeu physique, le jeu dans le trafic, en défensive, c'est pas sa tasse de thé. En offensive, il n'y a pas vraiment de problème. Il est tellement évasif qu'il n'y a pas vraiment de problème à ressortir dans le trafic en offensive. Mais s'il y avait vraiment quelque chose à dire de. Le négatif, c'est son désir de jouer en défensif et physiquement.
Ma question va être simple. Le Canadien a le cinquième choix. Tu veux qui?
Ah, c'est sûr que je veux Michkov ou Smith. C'est, okay. C'est vraiment les deux joueurs que moi, j'espère.
Mais donc, eux... par exemple, Zach Benson passerait loin en bas de Michkov, à ton avis, là, notamment.
Ben si, mettons, ils veulent pas Michkov, c'est sûr que moi, je veux Benson.
Ah, okay, ouais.
ce serait le choix 6. Après ça, tu as vraiment beaucoup de joueurs. Ça dépend tout le temps de le Canadien, qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut se grossir comme on pense qu'il veut? Si c'est ça, les choix sont assez pauvres, sauf Rainbacker. Dvorsky est 6 pieds 1, donc c'est pas nécessairement se grossir d'aller choisir ce gars-là. Donc les options sont quand même faibles pour vraiment se grossir. Dans ma tête, tu y vas pour le talent, puis ça arrête là. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est pas la leur, peut-être.
Oui, ben en parlant de grosseur, hein, on vous disait Benson, mais Benson, c'est un tout petit joueur, là, 5 pieds 9, je pense. Je pense que Will Smith est un choix logique, qui a déjà été coaché par Kent Hughes aussi, étant plus jeune.
Oui.
Selon toi, c'est quoi l'aspect de son jeu qui pourrait le plus aider les Canadiens dans les prochaines années?
Will Smith, c'est vraiment l'offensive, la façon qu'il a de contrôler le jeu avec, ses mains, mais la façon qu'il va comme occuper l'espace et aller influencer tout le corps défensif adverse pour ouvrir les lignes de passe et l'envoyer sur la transversale ou juste à l'envoyer au filet après ça. Un peu comme en avantage numérique, le Canadien, que Suzuki arrive du côté gauche ou droite, puis il va en fin de compte l'envoyer à Carfield de l'autre bord. Will Smith, ça, c'est son pain, son beurre, puis il est au-delà de ce que Suzuki nous offre depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal. Son talent offensif est vraiment élite pour qu'il améliore son patin et sa défensive, mais sinon, il est vraiment bon.
À ton avis, quel est le joueur qui va sortir dans le top 10 qui est le plus sous-estimé?
Le plus sous-estimé, rendu là, tu sais, avec tout ce que le monde dit sur Benson, je pourrais te dire lui, mais je pense que je vais te dire Dalibor Dvorsky. Okay. Il y a plusieurs recruteurs amateurs, si on veut, au public, qui poussent pour Varsity depuis le début de l'année. Et ça a fait en sorte que plusieurs personnes l'ont comme vraiment négativement décrit. Parce que offensivement, dans la hockey Allsvenskan, dans la deuxième division en Suède, ça n'a pas super bien été, mais c'est les occasions qui étaient juste pas là. Il était vraiment en défensive qui était utilisé. Sur l'avantage numérique, c'était juste pour son tir. Mais Dvorsky, contre son groupe d'âge, c'est 2 points par match. Et dans les championnats du monde, junior, au moins 18 ans, au moins 20 ans, mais il est vraiment bon. Donc, si vraiment j'avais dit un gars sous-estimé, c'est lui. C'est l'éventail d'habilités qui est vraiment intéressante pour lui. Est-ce qu'il y a un plafond offensif super élevé? Ben, c'est ça qu'on se pose des questions pour le moment. Personnellement, un centre de ce gabarit, de cette polyvalence-là en offensive et en défensive, moi, je ne crache pas là-dessus.
Le Canadien a un 2e choix de première ronde, celui des Panthers de la Floride, qui risque probablement d'être 31e, peut-être 32e s'il complète une remontée dans la finale. Quel joueur tu penses que le Canadien devrait cibler là, en fin de première ronde?
En milieu de première ronde, j'aurais aimé Ethan Gauthier vraiment, vraiment beaucoup, mais en fin de première ronde, il sera pas là. Si on voit la philosophie du Canadien de se grossir, on peut nommer des gars comme Quentin Musty, Anton Wahlberg, qui est un Suédois qui est bon dans les deux sens. Il n'a pas été super bon contre son groupe d'âge, mais dans la SHL, qui est la première division en Suède, il a vraiment été bon. Il se donnait en défensive et en offensive près du filet un gros gabarit. Un bon lancer et des bonnes mains, un peu à la Johan Frentzen, si vous voulez, si vous vous souvenez de ce joueur-là.
Ça fait longtemps.
C'est ce genre de joueur-là qui m'intéresserait beaucoup. Il y a plusieurs options quand même à gabarit. Daniel Boot, qui est un... Daniel But, le Russe, qui est de 6-4, 6-5, qui est un très bon tir, des bonnes mains, un genre de coup de circuit potentiel. Moi, j'irais vraiment avec les coups de circuit en fin de première ronde, parce que pour une deuxième année de suite, tu vas avoir un choix top 5, donc tu vas te chercher de la stabilité. Fait qu'en fin de première ronde, tout comme Philippe Méchard, tu peux y aller avec des choix un peu plus risqués, mais à place d'un gars comme Méchard petit, j'irais avec plus des gros gabarits comme Musty, Boot ou bien Valbert.
Dans le fond, c'est y aller avec des joueurs que leur potentiel risque d'être élevé, mais surtout des joueurs gros qui pourraient rapporter gros également.
Oui, exactement. Si on y voit que la philosophie du Canadien de se grossir, j'irais vers ça.
On parle beaucoup de Québécois, évidemment, étant au Québec, et de joueurs provenant de la LHJMQ. Tu as parlé d'Étienne Gauthier tantôt. Quels sont les autres Québécois à surveiller peut-être dans la première ronde ou dans les 2-3 premières rondes?
Il y a Étienne Morin, ça c'est sûr et certain, un défenseur très mobile, il est quand même mobilité correcte, mais très offensif. C'est vraiment un gars de transition, un gars qui joue avec la tête haute, en fait, pour voir les lignes de passe et pour vraiment contrôler le jeu. Il joue énormément dans la LHJMQ. Il a vraiment eu une grosse pression cette année, puis il a vraiment répondu aux attentes. Il y a Mathieu Catafor également avec Halifax, qui et c'est pas un gars avec le plafond offensif ou le talent incroyable, mais il réussit tout le temps à se trouver un rôle ou une façon d'avoir un impact. Dans Halifax, qui était vraiment une équipe boostée, si on peut le dire, sont allés chercher des éléments, et malgré ça, il a réussi à tirer son épingle du jeu puis avoir un impact dans tous les trios dans lesquels il a été utilisé. Fait que moi, Mathieu Catafor, fin première ronde, début deuxième ronde, c'est vraiment un gars qui m'intéresserait personnellement.
Mais comparé aux autres années, là, est-ce que la QV québécoise est un peu moins bonne? Parce qu'on parle beaucoup de Ethan Gauthier pour la première ronde, mais après ça, t'es les Morin, les Catafor, ça risque d'être peut-être plus deuxième. Est-ce que la QV québécoise est un peu plus faible?
Un peu plus faible, je dirais, la QV et la JMQ, oui. Le talent élite n'est pas nécessairement là. Il y a une belle profondeur en deuxième et troisième ronde, mais pour la première ronde, c'est moins là. Mais il y a Gabe Perrault aussi qui est intéressant pour la première ronde, qui est un Québécois, le fils de Yannick Perrault. Peut-être pas né au Québec, là, mais tu sais, un Québécois qui est vu pour la première moitié de la première ronde, mais minimalement top 20, un talent offensif incroyable. Il a battu des records aux États-Unis avec le programme américain. Mais c'est un choix risqué, veux pas, mais c'est un risque qui en vaut la chandelle, c'est sûr et certain, mais en milieu de première ronde.
C'est le frère de Jacob Perrault, lui qui a été un choix de première ronde, je pense, de Anaheim, il y a 2-3 ans.
Ben, si Jacob Perrault est le fils de Yannick, oui.
OK, ouais, j'ai pas fait le lien familial dans ma tête tout de suite, là. Mais ça se peut très bien, quand même, mais c'est pas pire, lui. Il fait deux fils, puis c'est deux choix de première ronde.
Ouais, ça serait quand même pas pire.
Finalement, le Canadien a 9 choix dans les rondes 2 à 7. Est-ce qu'il y a vraiment, tu sais, on parlait de cartes cachées un peu ou de potentiel high reward en fin de première ronde. Maintenant, c'est vraiment des cannes tirées à l'eau et on espère que l'hameçon pogne dans les rondes 2 à 7. T'as-tu déjà identifié des joueurs que tu ciblerais dans les rondes profondes?
Ben, il y a des gardiens de but, en fait. Trey Augustin, après ça, Jacob Fowler. On peut parler aussi de Michael Rabal, de Carson Bjornason. Pour le Canadien de Montréal, je pense que ça serait vraiment intéressant d'ajouter un gardien de but, soit en fin de première ou en deuxième ronde ou dans les rondes subséquentes. Je pense que de plusieurs noms, ce serait quand même intéressant. Moi, il y a un gars qui s'appelle Martin Michak, que j'adore, qui était dans Slovaquie au début de la saison, qui est transféré dans la USHL. Ça a été plus difficile au niveau de l'adaptation en USHL contre même les gars de son âge. Dans le style de jeu, c'était difficile, mais il y a vraiment un style nord-américain. Puis dans les séries, c'est là qu'il a commencé à ressortir puis à plus produire offensivement. Je pense qu'il a fait 10 points en 8 matchs. Puis ils ont gagné la Clark Cup dans USHL avec son équipe, les Phantoms de Youngstown. Fait que moi, personnellement, ce joueur-là, je l'aime pas mal. Il y a des gars comme Friske Mongard, un centre suédois qui serait pas mal intéressant dans ces environs-là aussi. Mais écoute, je pourrais t'en nommer une bonne soixantaine, si on veut. Il y a un Overager dans l'année passée que moi, j'ai bien aimé. Overager, ça veut dire que c'est pas sa première année de l'éligibilité au repêchage. Ouais. Un gars qui s'appelle Oscar Asplund, un défenseur qui a joué toute la saison dans l'Ars Vincan et qui a dominé un gars très, très bon que la rondelle, tout en train de la mettre en sécurité ou en danger, en offensive. Donc, c'est un gars que j'y jetterai un coup d'œil à partir de la troisième ronde. On verra ce que ça va donner, là, mais personnellement, j'espère qu'il va te repêcher cette année parce qu'il l'a mérité.
Moi, un overager que j'aime bien, c'est William Rousseau, mais ça, on en a parlé de long et en large depuis le début de l'émission. Merci beaucoup, Pascal, pour le temps que tu nous as accordé ce soir. On invite les auditeurs là, à te suivre là, sur tout sur le hockey et sur tes réseaux sociaux. Là. Ta liste finale de repêchage arrive le 19 juin. Je pense que tu as encore beaucoup de travail à faire d'ici là.
Oui, il faut que je montre le guide aussi de TSLH, le guide qui va être disponible en téléchargement gratuitement sur le site, qui va avoir des citations de toutes les personnes, tous les collaborateurs du TSLH Espoir. Donc, vous pouvez aller marquer juste TSLH le guide sur Google, vous allez tomber directement sur la page, ça va sortir très bientôt.
Super, donc l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Pascal, je te souhaite une excellente fin de soirée et on va suivre le repêchage de la LNH avec beaucoup d'attention, assurément.
Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée.
Bonne soirée. Donc, c'était Pascal Lapointe de Tout sur le hockey qui nous a parlé là, de plusieurs joueurs du repêchage là, de la LNH qui se tiendra le 28 juin prochain à Nashville. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de suivre ça. Puis, comme on l'a mentionné, le Canadien, avec deux choix de première ronde, ça risque d'être fort intéressant. Sur ce, on s'en va en publicité. Et ensuite, Charles Leblanc est déjà en studio avec nous. Donc, on va parler LNH et on va parler NBA également. Donc, restez là à Boisvert Radio.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Bonsoir, chérie! J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour vous, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh, ben.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
On est de retour à Voix Vert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Avant la pause, si vous avez manqué, on a reçu Pascal Lapointe de Tout sur le hockey. Si vous l'avez manqué, c'est vraiment dommage pour vous, mais vous pouvez le réécouter si vous le désirez. En fait, là, demain sur la page Facebook, on va mettre en ligne sur la page Facebook de Voix Vert Radio. Évidemment, on va mettre en ligne les différents liens Spotify, Apple et Chiz pour aller réécouter l'émission de ce soir. Pascal Lapointe, qui était notre dernier invité de la saison. Et je trouvais ça logique de parler du repêchage à la Ligue nationale de hockey parce que c'est notre dernière émission avant le repêchage. Et là, quand on va revenir en septembre prochain, le Canadien va avoir une tonne de nouveaux espoirs. Et là, on va avoir une tonne de joueurs juniors à analyser, une tonne de nouveaux joueurs justement à juger, t'es avec le Canadien en période de camp d'entraînement.
Je pense que ça va être une prochaine année qui va être extrêmement surprenante. On a déjà hâte un petit peu à savoir quels joueurs vont se greffer à ce noyau-là, ou ce noyau jeune, en fait, que possède le Canadien. On a vu des belles choses l'année dernière, puis là, on va pouvoir bâtir là-dessus.
C'est sûr, là, Kent Hughes a du pain sur la planche. Oui, je vais l'avoir. Kent Hughes a du pain sur la planche et vraiment, là, l'an prochain, justement, si le Canadien présente un noyau jeune, t'es, peu importe les résultats, ça va être excitant à regarder quand même, parce qu'on va se dire que cette équipe-là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, va devenir de plus en plus dominante. Et ça va être le fun là, de suivre ça avec attention. Je voulais également vous inviter, là, avant, la transition était très bonne pour aller parler du contrat de Cole Caulfield, mais je voulais finalement inviter nos auditeurs à nous suivre aussi sur Instagram, Bois Vert Radio, sur TikTok également, Bois Vert Radio. Vous pouvez nous suivre. Là, sur TikTok, on poste là, des vidéos un peu récapitulative de nos émissions, les moments forts et les moments également qui font jaser avec des opinions tranchantes. Donc voilà, on vous invite à suivre Bois Vert Radio sur TikTok. Évidemment, là, il va y avoir le TikTok de cette semaine, il va y en avoir un autre petite surprise la semaine prochaine, mais également là, en vue de l'an prochain, on compte là, recommencer les TikTok dès le début de l'année. Donc vous pourrez nous suivre là, encore plus de contenu de moi, de Lucas, de probablement Charles, éventuellement de Alex, de James, de Mathis, bref, tout le monde va être là et ça va être une très belle prochaine saison à Bois Vert Radio. Bon, parlons Ligue nationale de hockey un peu, parce que la fin de l'émission va être très chargée. On veut parler de la Ligue nationale de hockey, on veut parler également de la finale de la NBA avec Charles. Charles, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Yes.
Je serais content de te recevoir enfin à Bois Vert Radio.
T'es. Ah oui?
Le basket, je suis pas un grand fan de basketball personnellement, mais là la finale, crime, j'aime ça regarder ça.
Ouais,
je sais que c'est ton dada, le basketball, donc je trouverais ça logique là, de t'inviter.
S'il y a un bon temps pour regarder le basket, c'est en ce moment là.
Ouais,
on a deux finales en hockey et basket, et moi j'en reparlerai quand on va parler de la finale de la NBA, mais on n'a jamais eu un lien aussi étroit entre le hockey et la NBA. Je vous en dirai un petit peu plus tantôt.
C'est super. Donc, Charles, les auditeurs de Chiz te connaissent déjà avec, comme exact. Je le disais tantôt, là, avec Conduite Antisportive, la mouture jeune, un peu.
Ouais, c'est ça. Il y a les vieux poils, puis ouais. Nous autres.
Les jeunes casses.
Ouais, exact.
Donc, voilà. Pour ta présentation, si tu connais un peu en hockey, donc je voulais qu'on jase aussi un peu de Ligue nationale, parce que oui, Cole Caulfield a enfin signé son contrat hier.
Enfin.
Un contrat d'une. Tu sais où? Il n'était pas admissible à l'arbitrage. Fait que le Canadien aurait pu attendre un petit peu, nous faire attendre, comme il l'a fait par le passé avec notamment Piquet Subban. Mais on a décidé de régler ça, puis c'est une excellente idée. 8 ans, 62,8 millions. Rapidement, à mon avis, je pense que c'est un excellent contrat. Kent Hughes a respecté un peu la hiérarchie salariale de l'équipe. Tu as Nick Suzuki qui est le meilleur attaquant de l'équipe. Donc là, Cole Caulfield peut pas avoir plus que Nick Suzuki.
Et
donc,
le capitaine.
Et le centre numéro 1. Donc là, on donne un peu moins à Cole Caulfield. Puis Cole Caulfield, c'est un joueur qui est encore très jeune. Fait que dans ces 8 ans-là, il peut s'en passer des affaires. Là.
Ce matin, à RDS, il disait que dans ces 8 ans-là, il va en scorer au moins entre 200 et 300 buts. Fait que je me suis dit, c'est quand même quelque chose de bien. Hein, si on prend tout ce contrat-là, si on fait sa moyenne à peu près d'année. Puis moi, honnêtement, Charles, je vous dis enfin parce que ça fait quelques jours qu'on entend qu'il y aurait des possibilités d'offres des autres équipes,
des offres qualificatives, des offres qualificatives, dans le fond, ouais, à des joueurs autonomes et là, avec compensation.
Moi, je pense à l'offre qualificative. J'ai toujours le dossier de Kotkaniemi et des Hurricanes en tête. Fait que je voulais surtout pas que ça arrive. Et donc, oui, j'ai été quand même assez satisfait. Selon moi, je pense que c'est une aubaine, un contrat quand même très avantageux pour le Canadien et pour Cole Caulfield qui voulait absolument jouer à Montréal. Puis c'est pas un contrat non plus pont ou bridge qu'on appelle dans le langage qui aurait permis à Caulfield d'aller peut-être chercher un 9, un 10, un 11 millions dans 2-3 ans. Fait que je pense que tous les deux parties sont heureux là-dedans.
Mais oui, effectivement, 100% t'es Cole Caulfield. C'est le joueur le plus dynamique et de loin du Canadien de Montréal, je pense. Puis le fait de l'avoir encore pour 8 ans, peut-être tout ce qui est, oui, sur la patinoire, un impact incroyable qui va continuer de grandir d'année en année, mais aussi tout ce qui est... Cole Caulfield a une joie de vivre qui est très... un enthousiasme qui est très contagieux dans le vestiaire du Canadien. Et j'ai l'impression que quand il joue, ça se répand dans toute l'équipe, puis même t'es sur le personnel d'entraîneur, dans les bureaux, dans les journalistes, on dirait que l'ambiance est comme toujours plus légère. Et je trouve que c'est une bonne affaire pour le Canadien de Montréal parce que on a peut-être un peu tendance à prendre ça un peu trop au sérieux. Le Canadien, oui, c'est l'équipe du Québec, puis c'est l'équipe qui doit performer année après année, mais les gars sont là pour avoir du fun. On a beaucoup de talent,
oui.
Puis on va en avoir beaucoup aussi dans le futur. Donc je trouve ça vraiment le fun de le voir déjà là. À long terme, t'es avec l'équipe.
Ouais, puis Caulfield aussi, c'est son lien avec Martin Saint-Louis, c'est quand même quelque chose de vraiment spécial. On le voit dans les vidéos après les matchs. Puis on sait que quand que Martin Saint-Louis est arrivé comme entraîneur-chef de l'équipe, Caulfield n'était pas dans une super bonne séquence. Okay. Il jouait beaucoup moins. Il y avait des matchs où on le voyait pas du tout. Puis on sentait que son gabarit lui nuisait un petit peu. Puis il s'est assis avec lui, puis il lui a juste dit hey, amuse-toi, joue au hockey, puis amuse-toi. Puis à partir de là, ça a été un joueur complètement changé. Il a commencé, la chimie est revenue avec Nick Suzuki, puis de là, il a commencé à scorer énormément de buts, puis à avoir des chances, des opportunités. Son jeu a complètement changé, puis on voit qu'il y a un beau lien entre les deux. C'est le même genre de joueur, très petit, qui a le potentiel. Martin Saint-Louis, il a eu une carrière incroyable.
Ouais.
Malgré sa petite taille, Caulfield va probablement avoir le même genre de carrière malgré sa petite taille aussi.
C'est une relation qu'on voit pas souvent entre joueur et coach. Absolument. Dans l'année nationale, là, ça fait changement, puis c'est beau à voir.
Oui, oui. Ça nous montre que le hockey, c'est pas juste le sport, puis c'est pas juste business, c'est aussi des liens.
Ah, c'est des humains.
Oui, absolument. Oui, ouais, vraiment.
Puis en terminant sur le sujet, là, peut-être que certains auditeurs sont un peu froissés par le fait que Caulfield a été blessé à long terme cette année. Mais il disait en entrevue, je pense que c'est aujourd'hui même, là, qu'il patinait sans arrêt depuis 5 mois, qu'il était... Si aujourd'hui, il y avait encore une saison, ben là, il serait de retour au jeu. Donc, honnêtement, là, je m'inquiète pas trop là-dessus. T'es oui, Cole Caulfield, dans la Ligue nationale de hockey, il a fait quoi, 2 ans? Si on prend ses 3 ans combinés, là,
ouais.
T'enlèves sa blessure, un peu un léger passage à Laval. Je pense que t'as 2 ans, mais je pense que c'est un 2 ans où il a vraiment prouvé qu'il méritait là, que ce soit en haut de 60 millions, parce que d'un joueur spécial comme ça, faut pas passer à côté, puis faut s'assurer de l'avoir très longtemps.
Il est arrivé dans les séries en 2021, ben on s'en rappellera contre Toronto, puis parce que je revoyais ce top 10 de ses plus beaux buts ce matin.
Ah, on a oublié Sporting.
Exactement, on a écouté les mêmes. Mais ça donne envie, ça nous donne hâte pour la prochaine saison, mais aussi ça nous montre qu'il y a eu un impact dès qu'il est arrivé, ça a tout changé. Puis non, on est très heureux pour le Canadien et pour M. Caulfield.
Ouais. Puis parlant du Canadien en 2021, il y a plusieurs observateurs qui dressent un parallèle présentement entre le Canadien de 2021 et les Panthers de la Floride 2023. Parce qu'on va se le dire, là, ça va pas très bien pour les Panthers présentement. J'ai l'impression que la semaine passée, moi et James, on était là. Les Panthers, c'est tellement impressionnant. T'es Matthew Tkachuk, il va mener son équipe vers la Coupe, puis il va avoir les Conn Smythe. Puis là, les matchs numéro 1 et 2 de la finale sont joués à Vegas et... Qu'est-ce qui se passe avec les Panthers? Ça va tellement mal. 5-2, 7-2 pour les Golden Knights.
Sans unique pour un moment. Puis on peut parler de Tkachuk, on peut parler de Bobrovsky non plus, qui n'est pas l'ombre de lui-même. En fait, c'est plate à dire, c'est l'ombre du gardien qui a été cette saison en saison régulière, mais pas de celui qui a été en séries éliminatoires. Mais moi, j'ai été surpris par le jeu physique des Golden Knights de voir Radko Gudas se faire brasser par Ivan Barbashev. Je m'excuse, ça m'a fait un petit bombe dans le cœur. Mais j'ai l'impression que Vegas, c'est comme une équipe qui sait gérer ou jouer contre le genre d'équipe qu'est les Panthers.
C'est un match-up pour eux qui est... Je pense que la Floride avait des bons match-ups tout au long des séries. Ouais. Évidemment, tu joues contre les Bruins qui ont une saison historique. Sur papier, c'est pas favorable. C'est quand même bon. C'est très bon ce qu'ils ont accompli. Mais Vegas sont rapides, sont gros. Leurs meilleurs joueurs sont physiques. Je pense que là, Floride, il frappe un mur en ce moment. Là.
J'avais l'impression que tout le long des séries, les Panthers, dans leur tête, tout le monde autour leur disait « Vous êtes les underdogs. Vous êtes l'équipe qui n'est pas censée être là, sous-estimée. » Ils arrivent en finale. Et là, soudainement, on se dit « Ah, ben peut-être qu'ils ne sont pas si underdogs que ça. » Puis là, on dirait que la pression est plus là. Je sais pas. Les Golden Knights a complètement dominé les deux premiers matchs.
Ouais, puis moi, je trouve ça très impressionnant de voir les Golden Knights avoir déjà une deuxième finale en 6 ans d'existence.
Ouais.
Mais c'est une équipe... Le directeur général, je pense, c'est Kelly McCrimmon. Oui, c'est ça. Kelly McCrimmon, il a fait tellement des mouvements pour aller chercher des joueurs déjà expérimentés dans cette ligue-là. C'est pas une jeune équipe qui a progressé. C'est vraiment une équipe avec plusieurs vétérans qui se sont greffés les uns après les autres. Et oui, je pense qu'il y a 6 vétérans de la première année des Golden Knights qui sont toujours là. Ceux qui étaient là en 2018. Mais après ça, c'était Chandler Stephenson, Ivan Barbashev, Alex Pietrangelo, Alec Martinez. C'est tous des gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley. Ils vont amener avec les Golden Knights... et cette équipe-là a une combinaison de plusieurs expériences différentes. Et là, ça donne l'équipe qu'on a présentement. Puis c'est vraiment impressionnant à voir sur papier parce que là, écoute, est-ce que les Panthers vont revenir?
Ben, c'est le
pire. Vu la manière, j'en doute. Vu la manière dont les deux matchs se sont joués, j'en doute fortement.
Moi aussi. Puis les joueurs qui sont. Il y a des joueurs qui ont quitté le match. Gudas a quitté le match après sa mise en échec.
Kachuk a quitté le match, mais c'est parce qu'il a été expulsé.
Oui, c'est ça. Puis heureusement pour les Golden Knights, Eichel n'a pas été a pas quitté le match. Ouais. Mais de la manière qu'il joue, je vois pas comment les Panthers pourraient revenir. Mais on ne sait jamais. Le gardien de but, Eden Hill, des Golden Knights, garde les buts absolument de manière incroyable. Mais c'est quand même, c'est pas un gardien qui a énormément d'expérience. Est-ce qu'il pourrait s'effondrer d'un match à l'autre? Peut-être. En même temps, il y a eu des séries incroyables pour l'instant. Fait que, difficile à dire.
C'est ça, j'ai envie de dire, on va voir, mais rien présage. T'es ça,
non.
Rien laisse présager ça. Malgré qu'on aurait pu dire la même affaire avec Bobrovsky en sortant de la série contre les Hurricanes. Rien n'aurait pu présager qu'il accorde 12 buts. Ben, pas les 12 buts, là, mais qu'il s'effondre de la sorte dans les deux premiers matchs de la finale. Donc,
il a accordé plus de buts que contre les Hurricanes au complet, c'est ça?
Oui.
En 4 matchs. Donc, en 5 matchs.
Ouais. Et les Hurricanes, c'était 4.
4 matchs, oui.
Ouais, c'est un balayage.
Ouais.
Passer sur le corps.
Rapidement, là, en 2 minutes, c'est compliqué de parler de ça en 2 minutes parce qu'il y a eu un échange aujourd'hui dans la LNH qui a été qui est majeur, mais qui est très difficile à décortiquer parce que les Blue Jackets de Columbus ont fait l'acquisition de Ivan Provorov dans une transaction qui implique 3 équipes. Les Kings, Los Angeles, eux autres se débarrassent du contrat de Carl Peterson.
Ils ne reçoivent pas grand-chose, on va se le dire, là, dans cet échange.
Non, mais c'est ça, mais leur but, c'est normal qu'ils donnent plus qu'ils reçoivent parce qu'ils se débarrassent du 5 millions de Carl Peterson. Carl Peterson, qui cette année a été soumis au ballottage.
Oui.
Donc, t'es un 5 millions qui jouait dans la Ligue américaine. Fait que j'ai compris, t'es avec la fin de saison qu'ils ont eu puis leur participation aux séries éliminatoires, t'es, je comprends que les Kings de Los Angeles veulent faire des gros moves cet été, t'es aller chercher des gros joueurs autonomes, faire des gros échanges, histoire de continuer à s'améliorer et bâtir là-dessus pour l'an prochain. Donc, un 5 millions qui dormait dans la Ligue américaine, c'est très... c'est très dommageable, t'es, pour une équipe chose. Comme ça.
Puis,
fait que, t'es, ça, sont... pour ça, ils ont pris un peu du contrat de Provorov, puis ils ont payé Sean Walker.
Oui. Puis c'est le premier échange de Daniel Brière depuis son embauche. Exactement. Daniel Brière, qui était mon joueur favori quand j'étais plus jeune. quand même un bon échange, je pense, pour les Flyers, là, d'aller chercher un peu de profondeur dans les buts. Puis aussi un Sean Walker, qui n'est pas un mauvais défenseur.
Oui. C'est le 4e, 5e défenseur.
Oui, oui. Puis.
Il est australien, lui, en plus.
Oui.
Ça change rien, mais il vient de l'Australie, c'est non, vraiment
c'est un fun fact. Non, mais c'est... Puis, tu sais, il a dit ouvertement, Brière, qu'il n'y avait aucun intouchable après que les Flyers n'aient pas participé aux dernières séries. Fait qu'il l'a prouvé avec cet échange-là de Provorov. Puis, tant mieux si ça fonctionne. On va voir pour la suite. Peut-être que les Flyers vont être extrêmement actifs à ce plan-là, sur ce plan-là.
Je suis sûr qu'il était australien. Je viens de regarder, il est canadien. D'abord, je me mêle avec un autre Walker. Mais bref, il y a un joueur qui a été repêché par les Kings, qui est australien, puis j'étais sûr que c'était Sean Walker. Mais bref,
mais là, on s'écarte. Ça t'annule ton fun fact, il faut t'en trouver un autre, Charles, pour le reste de l'émission. Avant la fin de l'émission.
OK, ben, Ivan Provorov n'est plus l'ombre de lui-même depuis 2 ans. Ça, c'est pas tant fun pour lui-même, là. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent échange de Daniel Brière. Ivan Provorov, tu sais, oui, il a signé un gros contrat, je pense, en 2019 à peu près. Puis.
De 6,7 millions.
C'est ça, c'est un défenseur qui était vu comme un des futurs meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale. Mais là, depuis 2 ans, c'est une catastrophe niveau défensivement. Puis il fait pas autant de points qu'il en faisait avant. Donc c'est pour ça que je trouve que, tu sais, oui, Carl Pedersen, il reste juste 2 ans à son contrat de 5 millions. Donc pour une équipe en reconstruction, tu peux te permettre de l'avoir. LJ Grant, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur qui a été, qui a été acquis par les Flyers dans cet échange-là. Ouais. C'est un excellent espoir. Un choix de première ronde, 22e au total, qui provient là, des. Dans le fond, qui est envoyé par les Blue Jackets, mais c'est le choix là, des Kings de Los Angeles, qui avait préalablement été acquis dans l'échange là, de Vladislav Gavrikov. On en parlait avec Pascal tantôt, là, encore au 22e choix, il va y avoir beaucoup de joueurs là, très intéressants disponibles, peut-être Ethan Gauthier, donc qui sait. Peut-être que Daniel Brière là, va pouvoir piger et aller chercher un excellent espoir en retour de Ivan Provorov.
On peut peut-être penser que Daniel Brière aussi n'a pas aimé, puis c'est très valable là, l'action de Provorov de ne pas appuyer ouais. La communauté lors du match. De l'année passée, lors du match des communautés LGBTQ+.
Puis il y a comme starté un mouvement, là. C'était le premier à le faire, puis après ça, ça a déboulé dans la Ligue nationale.
C'était pas... Ouais. En tout cas, ça a fait scandale un petit peu, là. Puis on en a entendu parler beaucoup l'année passée.
Oui, surtout là, quand après ça, avec le Canadien, Gurianov a embarqué dans le mouvement également. Donc, bref, ben, je sais pas. T'es rendu là, je pense que c'est surtout une décision au hockey. Là. T'es Daniel Brière rentre en poste puis veut faire une reconstruction avec les Flyers de Philadelphie. Je le comprends vu leur performance dernièrement. Donc
l'autre aspect que j'ai remarqué de cet échange-là aussi, c'est l'an passé avec les Blue Jackets, Zach Werenski a été blessé la ouais. majorité de l'année. Puis là, on a un nouveau défenseur top 4 qui s'amène. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'ils vont éventuellement chercher à échanger Werenski? C'est une question de masse aussi. À un moment donné, les Blue Jackets ont quand même beaucoup de joueurs à re-signer cette année. Fait que on verra bien.
Mais c'est tous des espoirs aussi qui s'en viennent.
Des espoirs qui s'en viennent. Absolument.
Quelques défenseurs. Là.
Ils ont une belle jeune équipe. Dans 2-3 ans, ils vont être compétitifs. Je pense qu'il y a tout ça aussi là, derrière ces échanges.
Mais c'est ça. C'est moi, je me demande c'est quoi le plan avec Columbus. Parce que l'an passé, on est allé chercher Johnny Gaudreau. On était aussi allé chercher un vétéran défenseur, là, Eric Gudbranson, au niveau des agents libres. Donc là, je me dis, on amène Provorov. OK, on veut entourer Werenski, on veut entourer Patrick Laine, on veut entourer Jack Roslovich, et on veut amener les jeunes. Tu parlais de David Jiříček, Cole Sillinger et Ken Johnson sont deux autres superbes espoirs là, à l'attaque. Mais j'ai l'impression que ces espoirs-là sont peut-être pas encore prêts à arriver au niveau de leur potentiel, ce qui fait en sorte que ça pourrait... Il pourrait avoir une saison en Columbus un peu comme on a eu l'an passé, c'est-à-dire des joueurs vedettes, mais pas assez de support. Et ça fait en sorte que au final, Provorov va être venu pourquoi, tu sais.
Tout ça est super intéressant. J'aimerais ça vraiment parler encore de l'NH. Je pense qu'on va manquer de temps pour parler de basket si ça continue. Et on va avoir fait venir Charles Leblanc pour rien. Mais on en rediscutera assurément.
Ouais, c'est sûr. Il y a tellement d'affaires à dire sur cet échange-là. Mais merci de me ramener à l'ordre, Lucas. On va partir sur le basket un peu. La finale entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami
exact.
Est à égalité 1-1 après 2 matchs. Qu'est-ce que tu retiens là, de ces 2 premiers matchs-là?
C'est une finale intéressante. Ça a été des séries intéressantes dans l'ensemble. Ouais. Je pense que depuis quelques années déjà, mais surtout cette année, il y a une belle parité dans la NBA. C'est ça à chaque année dans la NHL, mais ça n'a pas toujours été le cas dans la NBA. Là, souvent, on savait que c'était LeBron et les Cavs contre les Warriors de Steph Curry et Kevin Durant. Là, on savait, tu sais, la saison. La finale finissait, puis on savait que l'année prochaine, c'était ça aussi. Là, cette année, c'était... presque impossible de prédire. D'ailleurs, le Heat, seulement la 2e équipe de l'histoire de la NBA qui se qualifie 8e pendant la saison régulière à accéder à la finale. S'ils gagnent, ce serait la première à le faire. il y a eu les Celtics qui ont failli faire un retour de 3-0, de 0-3 en demi-finale. Ça aurait été la première fois qu'une équipe de la NBA fait ça dans l'histoire des séries. Ça aurait été aussi les premiers à faire ça dans la MLB, ça a été les Red Sox de Boston. Dans la LNH, ça a été les Bruins de Boston. Donc, quand ça se passe pour une première fois, ça se passe à Boston.
À Boston. le parallèle que je parlais tantôt, ouais, c'est... c'est un petit peu facile, là, mais est-ce qu'on peut dire que le Heat, c'est les Panthers de la NBA? C'est
en plus, ils viennent de la Floride, les deux équipes.
Exactement. Là, les deux underdogs.
Oui, je pense que oui.
Toi qui es un expert, qui connaît quand même très, très bien la NBA, qu'est-ce que tu trouves que le Heat ont cette année qui explique leur présence en finale?
Jimmy Butler, excellent joueur, ça part de lui. Bam Adebayo, un excellent centre qui est complet, polyvalent. Mais c'est surtout, évidemment, Jimmy Butler, je l'ai dit, c'est leur meneur, c'est lui qui va chercher les gros paniers à la fin des matchs. Mais ils ont des joueurs qui sortent un peu de nulle part sur leur banc, qui sont excellents.
Moyenne de points par banc, les joueurs sur le banc, la moyenne de points par match était vraiment très élevée.
Ouais, c'est ça, exact. Puis il y a quelques joueurs là, qui ont Max Strauss, je pense. Callum Martin. Les deux ont augmenté leur moyenne de points pendant les séries, comparé à la saison régulière.
Des joueurs clutch.
Ouais, exact, c'est ça. Fait que le banc, comme tu as dit, est vraiment clutch. Meilleur que les autres équipes. T'as Duncan Robinson qui a vraiment pas eu une bonne saison depuis leur présence en finale dans la bulle il y a quelques années à Orlando. Duncan Robinson arrivait de l'NCAA une saison, je pense, en division 1, mais avant ça, il jouait en division 3. Fait une surprise. Là, il avait monté pendant la finale, il avait redescendu, jouait pas super bien depuis un an et demi. A recommencé à bien jouer. C'est des joueurs qui sortent un peu nulle part. Kyle Lowry était en descente, joue quand même bien. Kevin Love, d'ailleurs, Kevin Love qui est allé à la finale à chaque fois qu'il a participé aux séries. Malheureusement, il n'a pas gagné souvent, il a juste gagné une fois en 2016.
C'est une bonne stat.
Ouais, fait que malheureusement, c'était un mauvais signe pour le Heat une fois qu'ils sont rendus là. Mais.
J'ai écouté personnellement le premier match. Je trouvais que les Nuggets étaient très dominants. Disons qu'entre les deux, c'est un petit peu moins surprenant de les voir là, même si on aurait peut-être penser qu'une finale Celtics-Lakers aurait été plus probable. Dans le deuxième match, là, le Heat a remporté par 3 points. Qu'est-ce qui s'est passé à Denver en plus?
Ouais, ils ont changé leur défense. Pas nécessairement des gros ajustements, mais ils ont mieux contenu Jokic. Jokic a 41 points. Tu vas me dire comment ça, il a été contenu.
Doublé. Ils ont eu deux joueurs. Ouais, ça prend deux joueurs.
Il a scoré, évidemment. Impossible de l'arrêter. C'est probablement le meilleur joueur de la Ligue en ce moment.
Ouais.
Tu peux pas l'empêcher de marquer, mais 14 passes décisives au premier match. Je pense que c'est un record pour un centre dans un match de finale. Je crois qu'il y en a 4 ou 6, mais je suis pas mal sûr que c'est 4 au deuxième match. Une grosse différence, ouais. C'est ça. Il y a eu
Jamal plus de Murray. Points, mais moins de passes.
C'est ça, exact. Puis c'est le point central de l'attaque. Tout passe par lui. Ils ont un excellent two-man game, jeu à deux là, avec Jamal Murray et Nikola Jokic. Ça n'a pas été aussi efficace. C'est ça la clé pour les Nuggets. Si ça fonctionne, même si Miami a un meilleur banc, si les deux méga superstars fonctionnent, moi, honnêtement, je pense qu'ils vont s'ajuster. Je vais y aller d'une petite prédiction. Là. Je pense que Miami ne gagne pas un autre match dans la série.
Okay. Ah oui?
Ils sont bien coachés. Je serais pas surpris s'ils en gagnent un. Ça finit en 6. Mais je pense que les Nuggets, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ils l'ont prouvé. Ils ont passé au travers de l'Ouest assez facilement.
Balayer les Lakers.
Puis sinon, les deux autres séries, ça s'est fini en 5, si je me trompe pas.
Grosse performance.
Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à voir comment Miami peut gagner. Mais, comme tu disais, c'est un peu les Panthers de la NBA. C'est d'être des surprises tout au long des séries. On va voir ce qui se passe avec ça. Mais moi, je mets mon argent sur les Nuggets.
Mettons que le Heat gagne, ça serait quoi la clé pour qu'il gagne?
Continuer à bien jouer en défense. Il faut que le banc continue de ouais. bien performer. Mais sans Jimmy Butler, ça va presque être impossible. Jimmy Butler a des matchs je sais pas s'il y a au moins un de 50 points. Il a quasiment sorti les Bucks à lui tout seul, qui était classé premier dans l'Est.
Avec Giannis.
Ouais, c'est ça. Mais ton deuxième match, il a bien joué, mais il a juste 21 points. Il a fait tout plein d'autres choses. Il était bon en défense, il a distribué le ballon. Mais s'ils veulent gagner... trois autres matchs, il faut qu'ils prennent encore une coche. Puis tout passe par, c'est ça, la défense, le banc, dans le fond, faut que ils jouent dans leur force, puis qu'ils forcent les Nuggets à jouer dans leur faiblesse, qui est la profondeur.
Si je peux me permettre une petite question, pas nécessairement par rapport à la finale, mais moi, niveau NBA, oui, je suis un petit peu plus les Raptors, disons, notre seule équipe canadienne dans la NBA. Comment tu vois la suite des Raptors pour l'année prochaine, les autres années?
Ça va être intéressant. Toutes les équipes ont commencé à prendre leur coach en chef. Les Raptors prennent leur temps. On va voir quelle direction ils vont aller. Moi, je pense qu'ils vont perdre Fred Van Vliet. Ça a été une drôle de date limite des transactions. Ils sont allés un peu pas all-in, mais ils ont été acheteurs plutôt que vendeurs. Charles se questionnait sur Columbus. J'ai un peu des questions. Je sais pas trop moi non plus qu'est-ce qui va se passer avec les Raptors. On va voir s'ils sont capables de garder tous leurs joueurs. S'ils sont capables de garder toute leur équipe, je pense qu'ils peuvent quand même connaître une bonne saison avec Scottie Barnes qui va prendre d'expérience aussi. Je pense qu'il peut prendre une coche et être un excellent joueur dans NBA.
J'ai mis hâte de voir ça, puis justement, l'an prochain, on va te ramener là, pour parler des Raptors. Ça va faire plaisir. Ça risque d'être très intéressant. Je vois le temps filer, je vais conclure l'émission. Donc, Lucas, Charles, merci beaucoup d'être venu en studio.
Merci à toi, Charles.
Aujourd'hui, là, pour cette dernière émission de la saison de Boisvert Radio. Ça fait drôle de dire ça, il reste quelques secondes maintenant en onde. Je voulais dire merci également à Pascal Lapointe qui nous a parlé du repêchage. D'ailleurs, si vous avez manqué l'entrevue avec Pascal Lapointe, vous pouvez venir nous suivre là, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Les rediffusions là, vont être en ligne sur Facebook dès demain. Merci à Pascal, mais merci également à tous les autres invités là, qui ont été présents là, au cours de cette saison de Boisvert Radio. On a reçu beaucoup... un invité différent à chaque émission. Donc, je suis quand même content. Des invités, des émissions, des fois, avec plus d'un invité aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Je suis content du travail de recherche que j'ai fait, puis de tous les courriels, tous les textos envoyés. J'ai remercié Lucas, Charles ce soir, mais merci également à tous les collaborateurs, chroniqueurs qui sont venus pendant l'année. Thomas, Félix,